Deux récits puisés, comme chaque dimanche, dans l'Écriture. Le premier est dans le premier livre de Samuel. C'est sur ce texte-là que j'appuierai ma méditation. Et quelques lignes aussi de l'Épître aux Éphésiens. Alors, voyons d'abord premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Je rappelle très brièvement maintenant le contexte. Nous sommes dans une situation où la monarchie a été établie. Le premier roi est Saül. Des événements se sont produits et nous sommes dans la démarche de désigner un nouveau roi du nom de David. Il y a trois personnages en présence, principaux, trois héros. Saül, Samuel, le prophète et David. Le Seigneur dit à Samuel : Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléémite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. Samuel dit : Comment irai-je ? Saül l'apprendra et me tuera. Le Seigneur dit : Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras : Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé, c'est le père de David, tu inviteras Jessé au sacrifice, et je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire. Et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent, en tremblant à sa rencontre, et lui dirent : Bienvenue. Il répondit : Bonjour. Je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il consacra aussi Jessé et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Éliab : À coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. Mais le Seigneur dit à Samuel : Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit : Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer Shamma. Et Samuel dit : Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Jessé fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Jessé : Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Jessé : N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ? Et il répondit : Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé : Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Jessé l'envoya chercher. Or, il était roux, il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel : Confère-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. La deuxième lecture annoncée aux Éphésiens, chapitre 5. Nous prendrons les versets 8 à 14. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur, et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Le texte, le récit, l'histoire un peu étonnante que le livre de Samuel nous a donné, forcément partielle dans tout ce livre de Samuel, nécessite peut-être que nous fassions quelques rappels de ces histoires. Des rappels un peu comme à l'école biblique, à l'école du dimanche ou à l'école du jeudi, où ces héros que sont Samuel, Ésaü, Saül ou David, donne le support, donne la capacité de comprendre comment, au fond, la parole de Dieu, Dieu lui-même, intervient dans la vie d'un peuple qui est aux prises avec lui. Au fond, ce récit nous parle de l'appel de Dieu, de sa désignation pour un service, et quel service ? Mais aussi du rejet par Dieu, ce qui nous est peut-être moins facile à saisir. Il est question aussi de la manière dont les humains répondent et comment ils obéissent à sa parole. Et aussi, bien évidemment, de la fonction royale avec cette manifestation symbolique de l'onction d'huile et malgré tout la désobéissance qui résulte du fait de ne pas suivre ou être dans le climat de la volonté d'obéir à la parole de Dieu. Rappelons-nous tout d'abord que finalement la royauté n'était pas souhaitée selon la Bible pour Israël. Israël a voulu un roi comme les nations qui l'environnaient, mais il y a eu réticence pour cette nouvelle organisation de vie, pour de multiples raisons. Mais il y a le personnage qu'est Samuel, qui était porteur, le porte-parole de Dieu, et qui avait l'habitude de vivre aussi au milieu d'une autre organisation, celle des tribus, qui permettait effectivement d'avoir des groupes vivant leur vie communautaire et puis extra-communautaire, mais chez lesquels le maître, le roi, Dieu, était toujours premier. Cet intermédiaire en royauté posait donc problème. Mais le prophète Samuel, là aussi nous nous en souvenons, c'est celui qui, très petit, avait été consacré au Seigneur, appelé dans le temple, et nous donne là la mesure des choses, puisqu'il a à la fois cédé, toujours dans son dialogue avec le Seigneur, à cette mise en place de la royauté. Le premier roi, donc Saül, a reçu l'onction et a commencé son travail au milieu du peuple. Seulement, il nous est dit que Dieu l'a rejeté. Alors, on peut se dire, sauf si vous vous souvenez bien du récit, pourquoi ? Il a reçu l'onction, il a été confirmé par ce que le prophète lui a conféré, l'onction d'huile. C'est pour ça qu'au tout début de notre récit, nous comprenons que Dieu s'irrite un peu contre Samuel en lui disant « Mais pourquoi tu portes encore le deuil de Saül ? Je l'ai rejeté. Oublie, ce n'est plus lui qui est roi. » Mais Samuel, le prophète, lui, il a porté ce roi, il l'a accompagné. Donc il est encore dans cette responsabilité. L'humain est confronté à la volonté de Dieu et il y a un déchirement là pour lui. Alors, question posée, pourquoi ce rejet ? Est-ce que c'est une attitude arbitraire de la part de Dieu ? Saül a désobéi. Nous avons des récits de guerre, je n'insisterai pas sur la notion de guerre sainte et de combat, notamment contre les Amalécites, mais Saül a mené la guerre et il y a une décision très forte qui est annoncée, c'est-à-dire que le camp ennemi doit être éliminé, certes, y compris son roi, et tous ses biens, tout le butin est voué à l'interdit. C'est-à-dire que la guerre n'est pas faite pour s'enrichir, elle n'est pas faite pour avoir le bien de son ennemi, mais c'est un combat qui doit permettre une purification du rôle de Dieu, mais non pas du tout dans un souci d'expansion territoriale ou de biens à acquérir sur autrui. Saül s'est laissé avoir par le peuple et il a sélectionné tout le bétail, le bien de l'époque, la richesse, et il l'a gardé. Et en plus, il a décidé de choisir, comme ça se faisait, les meilleures bêtes pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est en tout cas comme ça qu'il justifie les choses devant Samuel, qui lui, bien évidemment, lui en fait le reproche. Il est donc exclu que Dieu lui conserve sa confiance et surtout du fait que ce n'est pas tant Saül qui est rejeté en tant qu'être humain, mais c'est important pour nous de réfléchir à ça, c'est qu'il est dorénavant contesté, rejeté dans sa fonction royale, dans sa fonction de conducteur du peuple, dans une fonction sacrée, de Messie également. Alors, il est étonnant de voir comment les choses se retournent. Samuel a peur, parce que la mission qui lui est donnée est délicate. Il y a cette exclusion pour la nomination de notre roi. Comment faire pour se rendre dans la famille de Jessé, désigner un roi, sans que Saül l'apprenne et me tue ? Voilà ce que, dans son dialogue avec Dieu, pense le prophète Samuel. Alors Dieu lui dit, tu vas dire que tu veux m'offrir un sacrifice. Est-ce que Dieu est dans le mensonge ? Ou donne-t-il une garantie à Samuel pour le rassurer seulement ? Je crois qu'il y a autre chose. C'est que Saül, comme je viens de l'expliquer, avait pris le butin de ses ennemis, contrairement aux ordres donnés, et avait habillé son geste comme la volonté de faire une offrande, de le rendre à Dieu finalement. Eh bien, il semble que dans le dialogue avec Dieu, Samuel va se servir de cela, retournement de situation, pour faire le sacrifice et cacher son action principale qui est de trouver le successeur. Vous avez entendu le récit, il y va. Dans certaines traductions, on a un peu peur de voir arriver ce prophète. Viens-tu nous apporter de bonnes nouvelles ? Ben oui, sacrifice à Dieu, c'est-à-dire moment religieux ensemble. Tout le monde est consacré ou se consacre pour la recherche d'un seul et ensemble, ils vont apporter cette louange à l'Éternel selon la tradition de cette religion. Et deuxième exemple d'un récit dont vous vous souvenez sans doute, deuxième point important, c'est le choix. Un verset qu'on peut garder bien en mémoire les uns et les autres. L'homme regarde à ce qui frappe le cœur, les yeux, pardon, et l'Éternel, lui, regarde précisément au cœur. Il y aura le défilé des fils possibles jusqu'à 7. Tous sont passés devant. La première fois, non, celui qui était le bienvenu en apparence est rejeté par Dieu. Samuel se trouve devant presque aucune hésitation. Le texte ne nous parle plus de Dieu. Lui-même dit que non, là, l'Éternel n'a pas choisi le second ni le troisième, et ainsi de suite. Notre histoire nous tient en haleine pour savoir, là encore, où nous allons. Dieu a choisi un des fils de Jessé, on ne sait pas lequel. Ils ont tous défilé et on a oublié le moindre qui n'est sûrement pas encore un soldat. On va le chercher, vous l'avez entendu. Et là, il apparaît de bonne prestance, de teint clair. Certains traduisent roux, comme je l'ai dit. Des yeux agréables, bonne présentation. Donc la bonne présentation, la bonne tenue n'est pas négative. Simplement, elle n'est pas la base première dans le choix. David, là, ne dit aucun mot. Il recevra l'onction au milieu de ses frères. Je ne sais pas si on l'informe de ce qu'il attend, mais ce qui est certain, c'est qu'appelé comme successeur de Saül, il nous est dit qu'à partir de ce moment-là, à partir du geste symbolique de l'onction d'huile, il y a le parallèle vivant et selon la volonté de Dieu, du fait que l'Esprit ne le quitte plus, que l'Esprit s'en saisisse, que l'Esprit soit avec lui. Il y a harmonie complète entre le cœur de David, sa disponibilité à écouter le commandement de Dieu et le don de Dieu, donné à la mesure de la tâche qu'il attend. Pourtant, deux mots encore de David. Parce que vous savez aussi que David, dans sa vie personnelle, ne sera pas un personnage exemplaire. Il va lui arriver ce qui vous arrive à vous et à moi, c'est-à-dire des histoires pas possibles, des combats aussi à mener sur le plan de la guerre dans son pays, mais aussi des histoires d'amour, des histoires de relations conflictuelles en famille, avec ses fils, des histoires de deuil douloureux. Je veux dire que David aura aussi, dans toute sa vie, commettra des erreurs et supportera l'inimaginable. Ce qui, lorsque nous faisons le bilan ou la récapitulation de nos vies, nous nous demandons parfois comment j'ai pu tenir, comment j'ai pu supporter jusqu'ici tout cela. Eh bien, ce personnage qui nous ressemble, ce personnage de David, est celui qui, à un moment donné, a reçu une part de l'Esprit de Dieu qui ne l'a pas quitté. Et malgré les difficultés, voire les sanctions, il y a eu ce pardon, cette grâce maintenue pour qu'il réalise la vie au service de Dieu. Voilà donc les étapes d'une élection conforme à la volonté divine et donc garantie, ça c'est important pour nos vies, garantie par la présence de l'Esprit. Le face-à-face de Dieu et de David, quelquefois par l'intermédiaire du prophète, Samuel, Nathan, etc., c'est un élément qui garantit contre l'affolement. Et pour nous aujourd'hui, est-ce qu'une histoire de recherche d'onction royale pour gouverner il y a 1000 ans avant Jésus-Christ a quelque résonance pour nous ? Le don de l'Esprit est une des garanties premières, me semble-t-il, contre l'affolement. L'affolement personnel, l'affolement de la planète, une intelligence qui peut être renouvelée par le don de l'Esprit. Il a été dit à David que son règne, finalement, n'aurait pas de fin, que quelqu'un prolongerait cette royauté. Et voilà que nous arrivons alors à la capacité de passer d'un Messie à l'autre. David aussi était un roi messie et il y a continuité de l'œuvre de l'Esprit puisque vous vous souvenez que cette onction, Samuel a versé l'huile à partir d'une fiole pour l'onction royale et nous avons le récit en mémoire de l'onction de Jésus lorsqu'il est baptisé. Lui aussi a cette fonction de roi et de prêtre. Il l'a pour le renouvellement du monde. Mais curieusement, nous ne savons pas si cette réalité-là a une incidence mesurable, palpable, vraiment engageante pour le quotidien d'aujourd'hui dans les affaires du monde. Est-ce que cette annonce, cette proclamation que nous faisons d'avoir un Dieu qui nous aime et qui nous envoie en mission, d'abord, on pourrait dire que cette onction qu'a reçue Jésus est une onction qui nous est conférée à nous. Il est dit aussi que nous sommes prêtres et rois pour Dieu. Au fond, qui peut dans le monde comprendre cela ? Est-ce une prétention excessive de la part de ceux qui vivent de Dieu ? Ou est-ce que c'est une promesse à prendre au sérieux ? Souvenez-vous que le ressuscité a rencontré ses disciples et qu'il a soufflé sur eux. C'est-à-dire que ce récit de l'onction passe, si je puis dire, de tous les serviteurs de Dieu, conféré par le prophète, donné à David, à qui on promet une succession cosmique, donné à Jésus, qui nous la transmet. Donc ce récit de l'obéissance, ou ce récit de la non-obéissance et de la sanction, vient nous concerner, nous, dans cette fonction de disciples du Christ, ayant reçu le souffle de Dieu. Et c'est là que la question se pose et nous situe dans le monde. Est-ce que nous risquons, nous aussi, d'être privés, comme nous dit le texte que l'a été Saül, de cette mission puissante sous l'action de l'Esprit de Dieu? Oui, par l'effet de la désobéissance. Et c'est tout simple à voir, c'est que si une communauté, une église, au sens large du terme, reste soumise à l'écoute de la parole de Dieu, je ne dis pas sans faute et sans tâche, sans chute, sans misère, c'est aussi notre vie. Mais si nous perdons la réalité de la prière où Dieu vient par l'Esprit corriger, remettre debout, remettre de l'ordre dans nos pensées, dans nos idées, dans nos désespérances, l'onction est retirée pour d'autres qui le feront avec puissance. Ainsi, pour qu'une Église vive, triomphe, soit témoin, soit que nous soyons rois et prêtres pour Dieu, il importe que nous soyons conscients d'être pécheurs, justifiés, mais que nous puissions, en liberté, comme nous l'avons dit dans notre liturgie, sans cesse réajuster notre comportement devant Dieu. C'est lui qui relève, c'est lui qui corrige. Et si vous êtes honnête, vous voyez bien qu'à divers moments de votre vie, il a permis un arrêt de violence, une transformation de désespérance, une radicale modification du rapport à autrui et une espérance transmise pour le monde. Je lisais dans le journal l'attitude de la fille de Martin Luther King. Peut-être certains d'entre vous ont lu ce texte. Fille de pasteur, ayant rêvé d'être présidente des États-Unis ou d'avoir des fonctions très élevées, et puis Dieu est venu la chercher, comme on peut dire en langage religieux. Elle est devenue pasteur. Et quand en ce moment, dans sa mission, elle analyse, y compris la politique d'aujourd'hui et la future présidence des États-Unis, elle mesure que les enjeux politiques sont de taille, puisque la rumeur du monde nous rapporte quotidiennement tout ce combat. Ceux qui attendent cette élection démocratique et leur installation au pouvoir suprême, eh bien, elle dit elle-même que finalement, aucun président, fût-ce, écrit-elle, un président noir qui effectivement nous donne l'impression que nous serions mieux entendus, ça n'est pas pour elle le personnage désigné démocratiquement en ce moment qui va compter, c'est de voir la réalité, y compris de la Grande Amérique, où manque, à côté de la richesse, la capacité de vivre pour beaucoup, où la jeunesse, c'est elle qui parle, n'a plus de sens à sa vie. Et dans un élan touchant, par l'exemple d'un père qui a mené un combat énorme et qui a disparu alors qu'elle avait 5 ans, elle est en train de nous redire aussi que tout ne se joue pas là, dans cette fonction politique et de la désignation d'un sauveur nouveau. Le sauveur et le Seigneur est donné dans une dimension cosmique pour que nous, individuellement, et communautairement, défendions, portons les causes de la vérité. Et ça commence par la vérité de nos vies, par une mise à jour de nos vies et des réactions engagées pour le monde. Je pourrais multiplier des exemples. Il me semble, sans vouloir nous effrayer, que notre planète est un peu affolée et que la perte de sens qui est rapportée par la fille de Martin Luther King est aussi une des menaces pour nos vies. On peut être des chrétiens comme des chevaux échappés suivant le cours du monde, ou des chrétiens qui ont une telle espérance profonde, une telle sincérité de reconnaître toutes les fois où la présence de Dieu et son esprit les a remis debout et vivants, qu'ils ont à partager avec vigueur cette réalité. Nous ne voulons pas être dans la planète affolée par la présence du mal, affolée par l'inouïe violence et par des discours qui sont souvent mensongers. Si le sens de l'existence est incertain à nos yeux, eh bien, nous voulons redonner vigueur, direction précise à nos vies et à celles du monde. Prétention, direz-vous ? Tout est insignifiant, tout est presque invisible dans la démarche de Dieu pour le monde. Et le roi qui a reçu l'onction est, pour les temps qui se présentent devant nous, un roi qui porte une couronne d'épines, c'est-à-dire le roi qui est capable de porter les souffrances du monde. Mais ceci commence par le fait que nous acceptions qu'il porte les nôtres, que nous acceptions de les déposer devant lui, et que, régénérés, remis debout, nous soyons en mesure d'exercer nos responsabilités. Je verrai beaucoup de questions qui sont cruciales. Vous avez su, et j'avais pris d'autres coupures de journaux, sur le débat à propos de la justice, sur la rétention de sûreté, où on enfermera peut-être pour des temps très indéterminés des individus, certes répréhensibles dans leurs délits ou leurs crimes. Mais je me demande simplement si nous avons encore conscience dans ce cas de la puissance de la grâce. Non pas la grâce qui dit « tu n'as rien fait, rien n'existe de ce que tu as accompli », mais une grâce qui vient corriger, redresser, apporter l'espérance et les soins indispensables. Sinon, nous sommes dans des situations d'abandon, d'enfermement. Je suis effrayé par autre chose aussi, visitant beaucoup de maisons de retraite, ou plutôt, oui, de maisons de fin de vie, je vois des portes et des fenêtres qui ne peuvent plus être ouvertes, parce qu'on empêche par là les personnes très âgées de tenter de se suicider. Donc la fenêtre ne peut plus s'ouvrir complètement. Et je me disais récemment qu'on n'empêche ainsi les gens de mourir, mais on ne leur apprend plus assez jusqu'au bout à vivre. Voilà notre monde aussi, nous préparons une jolie vieillesse pour demain si tout est abandon, méconnaissance. La Bible invite à la rencontre. Le don de Dieu en Christ est l'occasion du pardon, le pardon qui surpasse toute chose pour le courage d'être, pour que les groupes qui s'excluent se rencontrent. Mais c'est dans l'Église que nous avons ce courage-là. J'ai beaucoup apprécié un petit livre de Stéphane Lavignotte, « Vivre égaux et différents », qui reprend toutes les occasions que nous avons de dire « ceci, cela, ne vivent pas comme nous ». Donc, nous sommes dans l'exclusion. Si notre Église a le courage des rencontres, même des différences, même lorsque nous ne partageons pas la façon de vivre, des gens du voyage, des gays et des gay pride, de tout ce qui peut nous faire frissonner d'inquiétude. Nous avons une espérance pour la vérité, pour la vie qui nous est donnée. Nous ne pouvons pas le proclamer simplement une fois par semaine, mais tous les jours, ouvrir notre regard à la rencontre, au courage, parce que Dieu est là. Et je vais terminer ces quelques idées échangées à propos d'une onction donnée et d'une onction qui risque d'être enlevée. Et qu'en Christ, il n'est plus question qu'elle soit enlevée. L'onction, il l'a reçue totalement. Et c'est toujours à partir de la croix que nous pouvons recevoir à nouveau par un pardon infini de ce don total de Dieu. Inversion de la royauté promue pour une vie donnée. Le Christ donne sa vie plutôt que d'en mourir, mais il ne donne pas sa vie pour rien. Il donne sa vie pour que nous la recevions et que nous nous mettions debout. C'est ainsi que dans le journal aussi de l'Église, La Voix protestante, il est fait allusion au philosophe et théologien américain Paul Tillich, qui, pour notre temps d'aujourd'hui, rappelait que la perspective est d'entrer dans la culture de notre monde, de retrouver la spécificité du christianisme qui se mêle dans l'ensemble des religions et de la culture, mais qui n'a qu'une base sûre, c'est Jésus-Christ, manifestation de l'être véritable, l'être nouveau, et ceci dans les conditions concrètes de l'existence humaine. Tillich rappelle qu'une seule chose compte, c'est la vie en Christ, c'est-à-dire laisser Dieu, par l'Esprit, nous donner la mesure de sa présence pour notre vie personnelle, pour notre vie communautaire et pour le témoignage dans le monde. Amen.